avec les funérailles du papa à Lorraine. Puis aussi, mercredi, en passant par Québec, on a arrêté voir un jeune homme qui était aux soins intensifs de l'hôpital Schull, à Québec. C'est notre deuxième voisin. Il y a eu un gros accident de motocross il y a 2 semaines. Il a manqué mourir. Il y a eu 30 culots de sang dans les premiers 24 heures. Le jour que c'est arrivé, dans la nuit de vendredi à samedi, il était parti faire de la motocross sans dire à ses parents en plein milieu de la nuit, là, à 3 heures du matin. Puis un jeune qui était un peu à boisson, qui a brûlé un stop, puis qu'il a rentré dedans, il a failli mourir à deux doigts. C'est un miracle qu'il soit de toujours avec nous. Puis le Seigneur a permis qu'on aille le voir quand il était à Chicoutimi aux soins intensifs, puis de prier avec les parents qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont nos voisins, nos amis. Puis on a prié aux soins intensifs de Chicoutimi. Puis mercredi, on est allé voir, il est conscient, il y a eu 7 ou 8 opérations. Ils ont enlevé tout l'intestin grêle, le petit intestin, quelque chose. Mais nous, on leur dit, on prie qu'il n'y ait aucune séquelle. On prie qu'il n'y ait aucune séquelle. Puis c'est déjà un miracle qu'ils soient en vie. Donc, puis c'est ça. Après, on est allé à Sherbrooke pour préparer les funérailles de M. Bottry, le papa à Lorraine. Donc, c'est juste pour vous donner quelques nouvelles. On est content d'être avec vous ce matin. Puis, pour ceux qui nous visitent ou que c'est votre première fois, on est dans une série depuis plusieurs mois sur la vie de David. David dont Dieu dit, « J'ai trouvé un homme selon mon cœur. » Selon mon cœur, moi j'ai comme transposé ça un petit peu. J'ai dit « un cœur qui bat pour Dieu ». C'est la même chose. C'est qu'un cœur qui est centré sur Dieu. Et puis, on a commencé à apprendre, n'est-ce pas, le psaume 23 ensemble. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Oui, on va regarder ça encore un peu ce matin. On a quelque chose de spécial ce matin aussi. Vous avez peut-être deviné là, dans les prières de William. On a un invité spécial, Audrey Simard. Tantôt, je vais revenir. On va donner un témoignage ce matin. Mais je vais expliquer ça tantôt. Mais avant, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige par les eaux paisibles. Il restaure mon âme, comme si tu étais au spa. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, je pensais à ça parce que ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas révisé. L'Éternel, ça commence comme ça. Hein? L'Éternel est mon berger. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si l'Éternel est mon berger? Un berger, ça fait quoi? Ça veille, ça conduit, ça protège, ça donne à manger. Alors, oui, voilà, le dernier point. Mais est-ce que Jésus est ton berger, c'est-à-dire est-ce que c'est Jésus qui conduit ta vie? Réellement là, vraiment là. Est-ce que tu trouves ce que ton âme a besoin en Jésus? Un berger, ça nourrit. Est-ce que tu te nourris à la personne de Jésus ou tu cherches ailleurs? Tu cherches à combler le vide dans ton cœur ailleurs qu'en Jésus. Est-ce que tu te réfugies en Jésus? Est-ce que Jésus, c'est ta protection? Ou est-ce que tu tombes souvent dans l'autoprotection? quand tu te sens menacé, tu menaces, tu réagis avec colère, tu viens anxieux parce que t'es pas sous la protection de quelqu'un de plus grand que toi. Est-ce que Jésus est ton protecteur? Puis Jésus a dit dans Jean 10, comme Martial vient de dire, « Je suis le bon berger. » Pourquoi il est le bon berger? « Je donne ma vie pour mes brebis. » Est-ce que Jésus a donné sa vie pour toi? Oui, mais est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'as accueilli comme ton berger? À toi, là. La Bible dit, « Si aujourd'hui, vous entendez ma voix, c'est Dieu qui parle, n'endurcis pas ton cœur. » Si Dieu, ce matin, te parle, il y a un risque. À chaque fois qu'on entend Dieu nous parler, il y a un choix à faire, soit d'écouter ce que Dieu dit, puis d'aller dans sa direction, ou dire « non ». Et là, la Bible dit que tu es en train d'endurcir ton cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que tu es en train de te détourner de Dieu progressivement, et à un moment donné, ton cœur va devenir dur comme la roche. Et tu ne pourras pas répondre à l'appel de Dieu. Fait que ce matin, Dieu t'appelle. Alors, ce matin, on a quelque chose de très intéressant, de vraiment spécial. J'étais avec un frère bien-aimé en train de prendre un café lundi passé chez Tim Hortons, à Robertval. Puis, une madame arrive, puis elle dit, « Hein, vous parlez de Dieu? Je vous entends parler. Hey, c'est merveilleux. Je peux-tu me joindre à vous? » J'ai dit, « Wow, Seigneur, c'est qui cette femme-là? » Puis elle s'assoit, puis elle dit, « En plus, je te connais, toi, en parlant de moi. » J'ai dit, « Oui, ben oui. » Elle dit, « Vous êtes venu à notre église dans le temps qu'on était à Alma. » Puis j'avais donné mon témoin. Ah, j'ai dit, « C'est Audrey. C'est Audrey. » Ben voilà. Puis Audrey Simard, on avait été avec des amis au centre chrétien à Alma, puis elle donnait son témoignage, puis après, j'ai dit, on avait été bruncher avec elle, puis d'autres personnes de l'Église, puis j'ai dit, Audrey, il faut qu'un jour tu viennes donner ton témoignage à Saint-Félicien. Et ça, ça fait peut-être...
Ben, ça fait sûrement 7 ans,
Ben, c'est ça, moi, j'allais dire 7 ou 8 ans, là. Mais le Seigneur, j'avais écrit son nom dans mon journal, là, puis je peux continuer à prier pour Audrey et Daniel. Et leur fils, comment il s'appelle déjà?
Liam,
qui est avec eux ce matin. Fait que là, j'ai dit à Audrey, lundi, j'ai dit, Audrey, tu te souviens-tu que je t'avais dit ça? Elle dit oui. Ben, j'ai dit, t'es-tu prête à venir? Elle dit oui. J'ai dit, t'es-tu prête à venir ce dimanche-ci? Elle dit oui. Fait que, Audrey, je vais t'inviter à venir, puis à donner ton témoignage, puis comment le Seigneur est devenu son berger à Audrey. L'Éternel est mon berger. Donc, je sais pas si le micro, Jonathan, on peut ouvrir ce micro-là.
OK. Alors, je suis vraiment, vraiment bénie et honorée de me trouver parmi vous. C'est tous des frères, à part mon frère que j'ai vu chez Tim Hortons avec le pasteur Mathieu, que je ne connais pas, et je suis vraiment heureuse de tous vous voir ce matin. Alors, je suis vraiment aussi bénie que Dieu est fidèle quand il y a des choses qui sont préparées et qui ne se font pas. Alors, il revient, n'est-ce pas? Souvent, on voit ça dans nos vies. Il y a quelque chose qu'on met de côté, mais qu'un petit peu plus tard, Dieu revient avec ça, puis il dit, « Garde, c'était prévu. » Et c'est mon œuvre et je veux que tu le fasses. Alors, je vous dis que maintenant, je suis pas dans mon confort. Hein, je suis dans l'obéissance parce que j'ai quand même un côté gêné. Mais je vais quand même témoigner parce que je sais que c'est l'œuvre de Dieu. C'était prévu depuis 7 ans et puis et maintenant, c'est le temps de Dieu de l'amener. Alors, voilà. Alors, je vais commencer en me présentant. Moi, je m'appelle Audrey Simard. Je fais partie de l'Église de Centre à Métabitchouan. Je suis de dénomination pentecôtiste, mais je vous rassure tout de suite, Dieu a mis sur mon cœur, vraiment, j'ai un cœur d'évangéliste, et Dieu a mis sur mon cœur l'unité, vraiment, de se rassembler avec qu'est-ce qui nous unit, c'est-à-dire la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et de ne pas regarder aux différences. Pas de guerre de versets, pas de différence, mais de se réunir sous le couvert de Jésus-Christ qui nous a tous sauvés pour pouvoir, bien sûr, aller proclamer la bonne nouvelle et tout ça. Alors, ce matin, je vais amener mon témoignage. Alors, moi, je suis née de parents qui étaient catholiques. J'avais une mère qui était pratiquante, un père qui ne l'était pas, par contre. Mais j'ai fait tous mes sacrements dans l'Église catholique, au départ. Ensuite, je me suis mariée, j'avais 19 ans. Et puis, moi, ça avait toujours été le but de ma vie, ça avait toujours été d'être maman. Alors, depuis que j'étais toute petite, je savais que je voulais avoir des enfants. Et je me disais qu'un jour, quand j'allais partir d'ici, on allait pouvoir dire de moi que j'étais la meilleure maman du monde, que mes enfants allaient être ma réussite et que, waouh, ça allait être vraiment la gloire de ma vie, c'était ça. Donc, je me marie et puis je connais pas le Seigneur à ce moment-là parce que dans le catholique, j'ai été vraiment amenée à l'Église, si on peut dire, pas par plaisir, j'aimais pas ça. Donc, j'ai vraiment fait le parcours que mes parents ont voulu que je fasse, mais je connaissais pas Dieu. J'avais pas la conviction non plus que Jésus-Christ existait. Et je me disais qu'il y avait quelque chose, oui, qu'il y avait un Dieu, mais j'avais aucune conviction, aucune. Je me marie quand même dans l'Église catholique et je choisis moi-même. Maintenant qu'on sait qu'on est au Seigneur, alors nos choix, c'est pas bon. Les choix humains, c'est pas les meilleurs. Alors, c'est toujours le choix de Dieu, mais à ce moment-là, je le connais pas, donc je choisis moi-même un partenaire qui m'apparaît être un homme très responsable et qui va être un bon père pour mes enfants, puisque je me dis sûrement que cet homme-là est très responsable, il va faire un bon père, et c'est le but que je recherche dans la vie. Alors, bon. J'ai des enfants avec lui. J'ai deux filles. Une qui s'appelle Sarah, la plus vieille, et Alexandra. Et puis, la deuxième. Ils ont cinq ans d'intervalle. Mais ce mariage-là est attaqué par notre ennemi, à tous. Maintenant, je parle comme maintenant, je sais que, bon, on se bat pas contre les hommes, on se bat contre les spiritualités, n'est-ce pas? Alors, l'ennemi s'est mis sur ma vie. Alors, ce conjoint-là a développé un contrôle sur moi, un contrôle psychologique. Alors, au début, ça s'est intensifié tranquillement. Alors, moi, il faut dire aussi que je suis musicienne depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à jouer du violon, j'avais 3 ans et demi. Aller jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai pris des cours dans les écoles de musique ici au Saguenay-Saint-Jean. J'ai joué dans des orchestres symphoniques. Et puis, je me marie. Et puis, cet homme-là, au départ, n'aime pas le son du violon. N'aime pas, mais je vous dis, c'est pas l'homme que faut. Je veux que vous voyez vraiment l'ennemi. L'ennemi convainc cet homme que le violon, c'est pas bien et tout. Et puis, bon, je mets mon violon dans le garde-robe et j'ai été mariée 18 ans. Donc, on peut dire qu'il a sommeillé pendant un bon petit bout. Et puis, cet homme-là était complètement différent de moi. Il avait besoin, pour être rassuré, de contrôler son environnement, de contrôler les choses, que tout aille bien, que tout soit planifié très longtemps à l'avance. Et moi, j'étais complètement le contraire. Alors, moi, je suis une personne qui est colorée, qui est une musicienne, qui est colorée, qui est expressive, qui est proche des gens, qui ne gêne pas pour dire « Madame, vous avez des beaux cheveux » ou « Monsieur, c'est beau ce que vous avez dit » ou... Et lui, complètement le contraire. Alors, on était complètement à deux opposés. Et finalement, ce mariage-là a été un échec. Après 18 ans, ça a été vraiment une catastrophe. Dans le fond, l'ennemi a pris tout ce qui était, il m'a enlevé absolument tout. Il m'a enlevé ma musique à travers ce mariage-là. Il m'a enlevé ma confiance en moi. Il m'a enlevé tout ce que j'étais, mes couleurs, le côté expressif de moi, mes rires, ma joie de vivre. Il m'a tout enlevé pour mettre ça dans un petit bocal puis le fermer assez dur. Assez dur que, rendu après 18 ans, j'étais plus que rien du tout. Finalement, moulée à ce que l'ennemi avait voulu que je devienne, moulée à mon conjoint, très terre à terre, et c'était pas moi. Et à ce moment-là, j'ai voulu faire une tentative de suicide. Et puis, je me suis dit, OK, mes filles étaient rendues à l'âge de 14 ans, puis de 9 ans, rendues après 18 ans de mariage. Et puis, je me suis dit, OK, si tu fais ça, tu t'en vas, tu meurs. Tes filles n'auront plus accès à toi, jamais. Puis mes filles, c'est la relation que j'avais avec mes filles, c'était fusionnel. Mes enfants, ça avait été... c'est comme je vous disais, ça a toujours été le but de ma vie. Ça n'allait pas bien avec le conjoint avec qui j'étais. Donc, j'étais fusionnée avec mes enfants. C'était toute ma vie. C'était tout. Alors, je me suis dit, OK, j'étais plus capable de vivre la situation qui était dans mon mariage. Puis, j'étais morte. J'étais complètement morte à moi-même. Donc, je me suis dit, OK, je dois partir parce que... Si je pars pas, ben les filles n'auront plus accès à une maman. C'est terminé. Je vais être suicide, ça veut dire que je suis morte, je suis plus là. Ils pourront plus, je pourrais plus les aider, je pourrais plus les accompagner dans la vie. Puis ça, je pouvais pas. Donc je me suis dit, ok, c'est le temps que je parte pour moi. Donc j'ai demandé à mon conjoint le divorce et je suis partie avec avec une valise, avec pas grand chose. Avec une valise complètement détruite, avec le cœur détruit. Puis j'ai laissé mes enfants à ce conjoint-là parce que c'était un excellent père, un excellent père. Il y avait un contrôle psychologique sur moi, comment je m'habillais, où j'allais, comment je me coiffais, qu'est-ce que je disais et tout. C'était vraiment très, 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 très fermé. Mais avec les enfants, c'était un père excellent. Et les enfants l'adoraient, l'aimaient. Et il n'était pas question pour moi de détruire ce père-là aux yeux de mes enfants. Et puis, comme je partais avec ma valise, que ce conjoint-là avait une très bonne situation, un très bon emploi, j'avais une fille qui était au séminaire pour ses études, il y avait leur maison, leurs amis. Et puis moi, je partais avec ma valise, je me suis ramassée dans un 3,5 qui était, pas très modeste, pas très luxueux. Et je me suis dit, OK, je les amène avec moi, ils vont tout perdre, à ce moment-là, j'ai pas Dieu, je me dis, ça va être catastrophique, ils vont pas tenir le coup. Fait que j'ai laissé mes filles à ce conjoint-là, puis j'ai décidé d'accepter une fin de semaine sur deux, la visite une fin de semaine sur deux, puis bien sûr, le contact téléphonique autant qu'ils voulaient. Mais à ce moment-là, je suis complètement détruite, parce que je suis plus moi-même, Audrey est plus là, mais non seulement je suis plus moi-même, mais j'ai plus mes enfants. Ça, c'est ça a été la pire chose de ma vie, laisser mes enfants partir. Donc, je vis comme ça. Ils viennent une fin de semaine sur deux, mais à ce moment-là, je connais mon conjoint Daniel, qui est ici. Cet homme-là, et maintenant, je sais qu'il était élu de Dieu parce qu'il m'a redonné ma confiance en moi. Il m'aimait suffisamment pour me dire que j'étais capable, que j'étais une femme qui était belle, qui était capable d'être expressive sans être déplacée. Et puis, il m'aimait tellement qu'il m'a redonné ma confiance en moi, qu'il m'a redonné mes couleurs. Et c'est ça. Sauf que on s'entend que les filles n'ont pas accepté la venue de Daniel dans ma vie. Et puis qu'après un an d'être venu une fin de semaine sur deux, ils ont décidé tranquillement de s'éloigner. Et c'était pas mon désir de les forcer à venir, de les forcer à communiquer avec moi non plus. Donc, du côté du conjoint que j'avais quitté aussi, ça a été très difficile pour lui. Et lui aussi, à ce moment-là, a été attaqué par notre ennemi commun pour vraiment déprécier le choix de mon conjoint et pour dire aux filles que je les avais abandonnées, que je les avais pas choisies, puis que j'avais... c'est ça, je les avais abandonnés, que mon choix, c'était pas eux, et voilà. Et la deuxième année, les filles étaient presque pas venues chez moi. Les téléphones se faisaient rares, et puis la distance était de plus en plus grande. On allait toujours à Noël chez ma mère. La première, c'était entendu avec mon conjoint que les Noëls étaient chez ma famille à moi. Et le deuxième Noël, ça faisait déjà 6-7 mois que les filles n'avaient pas eu de contact avec moi. Le silence s'était installé. Donc, je me suis présentée chez mon ex-conjoint, puis j'ai parlé à la plus jeune. J'y ai dit, écoute, ça va être malaisant, mon bébé, qu'on aille à Noël, puis que ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas parlé. Je voudrais qu'on reprenne contact, qu'on se parle un petit peu avant d'aller chez grand-mère. C'était au mois de novembre. Donc, elle me dit, écoute, maman, la vérité, c'est que je ne peux pas te pardonner d'être partie. je peux pas te pardonner. Puis on s'entend que le contrôle psychologique, ça se voit pas. Hein? Ça, j'étais une femme qui était soumise, une femme qui était silencieuse, zip. Donc, il y avait pas de colère, il y avait pas de cri dans la maison. Il y avait que du contrôle et les filles n'ont rien vu. C'était pas mon désir non plus à ce moment-là de leur montrer comment ça allait mal avec leur papa. Donc, ils n'ont rien vu venir. Quand je suis partie, c'est vrai que ça avait l'air comme « Maman vous abandonne », et c'est ça. Mais j'ai pas voulu décrire la situation qui m'avait été infligée par le conjoint. Et j'ai pas voulu rien détruire, donc j'ai pas essayé de me défendre face à ça. Elle me dit « Bon, OK, regarde, je peux pas te pardonner d'être partie. J'y arrive pas, puis écoute, ça me pourrit la vie. » Je ne suis pas capable de continuer comme ça, fait que je vais te demander une chose. Puis si tu m'aimes, tu vas le faire. Alors moi, je m'en vais par là, toi, tu t'en vas par là. Tu ne cherches pas à me contacter, à me voir, à me parler. Tu fais comme si je n'existais pas, que je n'ai jamais existé. Fait qu'à ce moment-là, je m'effondre en larmes. Je lui dis, écoute, bébé, tu ne peux pas faire ça. Mon cœur de mère va être complètement détruit. Je ne vais pas vivre comme ça, je ne peux pas. Elle dit, écoute, si tu m'aimes, tu vas le faire. Puis elle me l'a répété trois fois avant que je dise oui. La troisième fois, je disais non, je régimbais. Puis la troisième fois, elle m'a dit encore une fois. Elle m'a regardé dans les yeux, puis avec une froideur dans le cœur. Puis elle m'a dit, écoute, si tu m'aimes, tu vas le faire. J'ai dit, si tu veux que je te prouve mon amour, un amour encore plus grand que ce que je t'ai montré avant, parce que je donnerais ma vie pour toi. Je t'ai donné tout ce que j'avais, 150% de moi-même, alors oui, OK, je vais le faire. Je vais respecter ce que tu me demandes, je vais tenir ma promesse, puis je vais te laisser aller. Donc, je me suis levée, j'ai pris ma fille dans mes bras, j'ai senti ses cheveux, parce que, bon, ça fait toujours remonter l'émotion quand je témoigne, mais je sais que c'est nécessaire. J'ai senti l'odeur de ses cheveux, mais à quelque part, en dedans de moi, je savais que ça allait prendre du temps, fait que je la revois. Puis je suis partie. Puis là, dans mon auto, je croyais qu'il y avait un Dieu quelque part, mais pas en Jésus. Bon, puis... de Alma à l'Ascension, où on demeurait, moi et mon conjoint, j'ai crié. J'ai crié à un Dieu. J'ai dit, OK, s'il y a un Dieu quelque part, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai hurlé dans mon auto. J'ai dit, s'il y a un Dieu quelque part, tu peux pas me prendre mes filles. Tu peux prendre n'importe quoi. Tu peux me faire perdre la santé. Tu peux, tu sais, un peu comme le conte de la petite sirène, là. Tu peux prendre ma voix. Tu peux me rendre sourd. Tu peux faire ce que tu veux. Mais t'as pas le droit de me prendre mes filles. T'as pas le droit. Parce que ça, c'est toute ma vie. T'as pas le droit de faire ça. J'étais en colère, puis en même temps, je me suis dit, s'il y a un Dieu, il va m'entendre, puis il va faire en sorte que ça se produise pas. Mais bon. Je rentre chez moi, puis je suis quelques années plus tard, presque 4 ans plus tard, puis j'ai pas plus de nouvelles. Puis la deuxième de mes filles, quelques temps après la première, m'a demandé la même chose que sa sœur. Alors, la même chose. Si tu m'aimes, tu vas te laisser partir ma sœur, tu vas me laisser partir. Parfait. Je l'ai fait. Allez-y. Donc, quelques années plus tard, c'est ça. Alors, j'ai pas de téléphone. À chaque Noël, à chaque fête des mamans, à chaque anniversaire de mes filles, j'ai les tripes arrachées. Je souris pour le monde. Je vais travailler. Je souris pour mon conjoint qui est tellement adorable, tellement tendresse, tellement aimable. Mais quand je me retrouve toute seule, quand je suis la nuit, je dors par bout, je pleure, je suis détruite, j'ai les tripes arrachées. Une maman à qui on enlève ses enfants, c'est viscéral. Alors, ça passe pas. Hein. Souvent, les gens ils disent, « Ben, c'est pas grave, ils sont jeunes, ils vont venir, regarde, sois dans la joie, ça va bien, ils vont venir. » Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous tes états comme ça, mais c'est... C'est en dedans, ça fait tellement mal que c'est incurable. Ça fait juste empirer. Donc, j'ai eu un cancer du col de l'utérus vers cette période-là, que ça fait à peu près 4 ans que les filles n'étaient plus là. Et puis, on s'est décidé, moi et mon conjoint, parce qu'ils m'ont enlevé la moitié du col d'utérus, et mon médecin m'a dit à ce moment-là, « Écoute, si tu veux avoir un autre enfant, c'est là maintenant. Parce qu'après ça, si le cancer reprend, c'est terminé, tu ne pourras plus porter. » Donc, on a décidé que oui, on voulait avoir un enfant qui était issu de notre amour, puis on a conçu notre fils. Alors, Dieu nous a donné notre fils, Liam, qui a maintenant 10 ans, qui va avoir 10 ans le 16 septembre bientôt. Puis bon, cet enfant-là est né, puis je me réjouissais d'avoir un autre enfant. Puis à quelque part, oui, je me mentais moi-même, parce que je me disais, bon, cet enfant-là, quand je vais le tenir, à quelque part, ça va mettre un baume sur ma douleur, tu sais. Peut-être que, bon, je vais me raccrocher à cet enfant-là, puis que ça va m'aider. Ça va m'aider à porter mon quotidien, à tout ça. Mais quand j'ai eu Liam, puis je l'ai pris dans mes bras, c'est le contraire qui s'est produit. Je m'étais pas rendu compte à quel point que j'avais eu un choc, un blocage au niveau du cerveau, un blocage de mes émotions. Quand je le regardais, je me bloquais carrément à l'aimer. Je voulais pas. Parce que je me disais, puis c'était plus fort que moi, en dedans de moi, ça me disait toujours, je le regardais, puis je voulais m'abandonner à lui, être la meilleure mère, l'aimer le plus qu'il fallait, comme j'avais fait pour les filles, mais à quelque part, il y a quelque chose en dedans de moi qui me disait, ben regarde, il va faire la même chose. Il peut faire la même chose. Tu vas tout lui donner, puis regarde, les autres, t'as fait ça. Puis lui, il va partir. Mais là, moi, dans moi, ça me disait, je suis pas capable de plus. Je suis pas capable une troisième fois de vivre ça. Écoute, j'avais tellement mal. C'est tellement difficile de vivre mon quotidien que je me disais, non, je peux pas. Je peux pas un troisième vivre ça. Si ça l'arrive, je pourrais pas. Ça va être trop. Fait que j'étais pas capable de m'abandonner à aimer cet enfant-là. Puis, quand Liam a eu 6 mois, j'avais accumulé beaucoup de médications. J'avais été 4 ans à attendre les filles, à être suivie par des médecins, à être sur les antidépresseurs à haute dose, à avoir la médication pour dormir parce que je ne dormais plus. J'étais insomniaque. Mais je ne la prenais pas, cette médication pour dormir là. J'étais épuisée, j'étais fatiguée, puis je l'accumulais. Je la commandais à la pharmacie pour que Daniel pense que je la prenais, mais je l'accumulais. J'avais accumulé des milliers de pilules, des milliers de capillaires. Et puis là, je me suis dit, OK, là, c'est terminé, c'est maintenant. C'est maintenant que j'ai déjà décidé que je voulais partir, puis je ne pouvais pas, mais maintenant, ben c'est la meilleure chose à faire. Parce que mon conjoint ne mérite pas une femme qui pleure toute la nuit, puis qu'il sourit, mais pour lui faire plaisir, puis qu'il pleure toute la nuit, non. Parce qu'il voulait toujours me rendre heureuse, puis au final, je disais tout le temps, Daniel, investis pas. Tu sais, j'ai le 2/3 du cœur arraché, fait que quand même que tu ferais des pieds et des mains pour me rendre heureuse, tu perds ton temps, puis c'est pas juste pour toi que tu perds ton temps. Je serai plus jamais heureuse, puis c'est pas juste pour toi que tu perds ton temps. Puis je me disais, c'est pas juste pour Liam non plus. Cet enfant-là, 6 mois, puis il mérite l'amour, le don d'une maman entièrement, l'amour d'une mère, comme les autres enfants, puis ça, ben je peux pas. Fait que je me suis dit, OK, je m'en vais. Je me suicide parce que lui va pouvoir trouver une femme qu'il va pouvoir gâter, il va pouvoir aimer, puis qu'elle va lui rendre, elle va être heureuse, puis il va pouvoir voir ça puis être béni de tout ça. Puis Liam va pouvoir trouver une maman. Il est assez jeune pour ça, il y a 6 mois. Il va pouvoir avoir une maman qui l'aime comme il mérite. Puis c'est ça. Ça fait que... Là, il faut que je fasse un petit aparté pour vous dire que mon conjoint a un témoignage qu'il ne fera pas aujourd'hui. Mais un témoignage qui est aussi puissant que moi. Mais dans d'autres sphères. Dans l'alcool, dans la drogue aussi. Puis mon conjoint est venu au Seigneur. Ce qui est particulier dans notre témoignage, c'est qu'on n'a pas été, on côtoyait aucun chrétien. On était dans le salon chez nous, qui est dans la maison chez nous. Lui avait côtoyé le catholicisme, mais il croyait en un Dieu, il croyait en Jésus. Moi, non. J'étais athée. Et le Dieu est venu nous chercher directement dans notre demeure. On n'a pas passé par des chrétiens, on n'a pas passé par quelqu'un qui nous a parlé de Dieu ou de Jésus. C'est le royaume de Dieu lui-même qui est descendu dans notre maison. Daniel a crié à Dieu 3 jours avant moi parce que ce que moi, je lui cachais au niveau de mes pilules, Puis au niveau du fait que je voulais partir, me suicider, lui me le cachait. Mais au niveau du mal de vivre qu'il y avait, qui s'était toujours installé en lui, puis qui n'avait jamais été comblé. Puis lui, il m'avait, il avait Liam, puis il souffrait autant que moi. Il pleurait autant que moi, sans que je le sache. Mais parce qu'il y avait un vide. Un vide depuis qu'il avait l'âge de 8 ans. Il était complètement vide, puis il voulait mourir. Il ne savait pas pourquoi il était sur Terre. Puis il essayait de trouver le bonheur, puis il ne trouvait pas. Même pas avec son nouveau fils, pas avec sa nouvelle femme. Mais ça, je l'ignorais. Dieu est venu chercher, en lui parlant de son amour, avec la lettre d'amour qu'il a vue sur YouTube, parce qu'on n'avait pas le câble. Puis il a vu la lettre d'amour du Père sur la télévision. Puis le narrateur a lu que le Père l'aimait tellement d'une façon extraordinaire. Alors, tout ce qu'on peut lire dans la Bible, il y en avait une partie qui était écrite, « Veux-tu être mon fils? Je te tends la main, je t'aime. » Alors, lui est venu au Seigneur, 3 jours avant ma tentative de suicide. 3 jours avant. Ce jour-là, ben, mon conjoint est moins expressif que moi. Alors, il y avait une vieille Bible qu'il y avait quand il débroussaillait dans le bois. Alors, moi, je me lève le matin, puis 3 jours après, je me suicide, si je vous tiens bien là, dans le contexte. Alors, je me lève avec le bébé, j'arrive dans l'escalier, puis je vois Daniel, qui n'est pas du tout expressif autant que ça, avec sa vieille Bible qu'il y avait dans le bois, puis qui saute partout dans ma cuisine. « Audrey, Audrey, j'ai découvert Dieu, Dieu est vivant, Dieu est vrai, il m'aime! » Il dit « Audrey! » Et puis là, je me dis « OK, wow! » J'ai Liam dans les bras, je me dis, ça y est, mon conjoint rentre dans une secte. C'est pas le temps, pantoute. Parce que là, moi, je veux me suicider, je veux partir, je suis dans cet état-là. Puis là, je me dis, écoute, là, c'est pas le temps qu'il rentre dans une secte, c'est n'importe quoi, mais bon, écoute, regarde, ils s'arrangeront avec ça après. Puis là, il s'en va dire. Tu sais, au début, on n'a pas vraiment la sagesse de Dieu. Il me regarde dans les yeux, j'ai le petit dans les bras, puis là, il me dit, « Audrey, j'ai quelque chose d'important à dire. J'ai découvert que j'aime plus Dieu que toi, puis Liam. » Oh. Oh, monsieur! Ben là, par exemple, là, ça a été automatique. Daniel, tu fais tes valises, puis tu pars de la maison. Va réfléchir. J'étais tellement insultée, j'ai dit, « Non, 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 regarde, là, non. » Mais là, je me dis, c'est zéro pas le bon temps, tout ça, qu'est-ce qui... Bon, ça fait que mon conjoint, le soir même, lui, il a découvert Dieu, puis il l'entend. Donc, il dit, Dieu, écoute-moi bien. Je le dis pour lui, mais je ne vais pas perdre ma femme. Là, ma femme, elle me met dehors avec ma valise. Qu'est-ce que je fais? Dieu, il a dit à mon conjoint, bien, prie. Prie pour ta femme. Daniel, bon. Prie pour ma femme. Puis ce bout-là, je l'ai amené, cet aparté-là, parce que je veux vous montrer la puissance de la prière, OK? Mon conjoint a prié 3 jours pour moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le 3 jours, moi, je n'étais pas au courant qu'il priait pour moi. Je n'étais pas au courant de ça. Mais 3 jours après, j'avais le verre d'eau puis les pilules dans les mains, OK? C'est exactement 3 jours après. Donc, ces 3 jours-là, on est le soir. Alors, je dis à Daniel, « Ben là, ce soir, je suis fatiguée. Donc, tu vas prendre Liam, puis tu vas aller l'endormir. Puis moi, à soir, regarde, je me sens vraiment pas bien. Je reste en bas. Je le laisse monter, puis je me dis, OK, une fois que le bébé va être endormi, que Daniel va dormir, ben c'est là. C'est là que ça se passe. Regarde, c'est terminé pour moi. » Puis Daniel avait commencé, de ses 3 jours, à écouter sur YouTube beaucoup de vidéos qui parlait de Dieu, qui parlait la parole, les versets de la parole. Et puis, la télévision était ouverte, et puis je tombe sur des versets de la parole, mais bon, je ris carrément de ça, je me dis, frère, comme oh, n'importe quoi. Puis je tombe même sur un témoignage d'une femme qui voit que Dieu pleure ses enfants, qu'elle a connaissance que le cœur de Dieu pleure ses enfants. Et puis, je suis sarcastique, OK? À ce point-là, je ris tout seul dans mon salon, mais je ris à haute voix, je me dis, n'importe quoi. Tu sais, c'est sûr que si un Dieu, il pleure ses enfants, puis qui regarde, moi j'en ai deux, ils sont partis, puis ils regardent dans l'état lequel je suis, là, tu sais, regarde, j'ai les tripes à terre, donc probablement que s'il y a un Dieu, ça serait ça, mais j'en ris, là, c'est comme, c'est sarcastique. Donc, Daniel dort, Liam dort, je prends tout ce que je peux de Kaplan, je me dis, cette fois-là, je me manque pas, parce que la dernière fois que j'avais voulu le faire, c'était médicamenteux, puis je n'avais pas assez, donc... Là, je me dis, j'en avale jusqu'à temps que j'en aille, qu'ils sortent par là, tu sais, les oreilles. Donc, c'est ça, je me manque pas. Donc, au moment que j'ai voulu commencer, j'ai entendu la voix audible de Dieu dans mon salon. Alors, une voix qui était à la fois appuyée, je te dirais pas autoritaire, mais amour. Alors, la voix, ça dit, ça m'appelle par mon nom. Tu sais, quand on dit que Dieu nous appelle par notre nom. Alors, ça dit Audrey. Carrément, Audrey. À ce moment-là, dans la vie avant Dieu, j'étais fanate de films d'horreur. Fait que moi, je croyais aux démons, aux entités, à tout ce que tu veux. Mais bon. Alors, je pense que c'est un fantôme, et croyez-moi, j'ai répondu parce que je suis venue, là, les jambes me tremblaient comme ça. Et puis, c'est vraiment une voix audible que j'ai entendue dans mon salon. Donc, je dis oui. Audrey, oui. Et puis là, ça l'a dit... Ce que tes filles te font, ça fait mal. Je réponds oui. Et puis là, il m'a dit, ben ma fille, ça fait 42 ans que tu me fais vivre la même chose. Et là, c'était, je suis pas capable de vous dire comment je me suis sentie parce que je me suis sentie comme un gros sac poubelle. Un gros tas de merde, excusez le mot, mais je me suis dit, waouh, je suis tombée à genoux, carrément à genoux, j'ai tombé par terre, la puissance, la voix de Dieu, je suis tombée à genoux par terre, même si j'aurais pas voulu tomber, je suis tombée à genoux. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré, puis j'ai parlé à Dieu, à voix haute. J'ai dit, écoute, je pensais pas que t'existais, je pensais même pas que t'existais. J'ai su que c'était Jésus. J'ai su que c'était Jésus. Parce qu'en même temps que j'ai tombé à genoux, Jésus m'a donné la conviction dans mon cœur qu'il était mort pour moi. J'ai vu tout ce qui m'avait été enseigné, puis tout ce qui m'avait été dit de Jésus. J'ai vu Jésus qui avait donné ma vie pour moi. J'ai senti dans mon cœur l'amour qu'il avait donné pour moi. Puis là, je me rendais compte que ce qui me faisait vouloir mourir à l'échelle humaine, c'était sa peine à lui, mais à l'échelle divine, pour moi. Moi, j'étais pas mieux que mes filles qui étaient parties. Lui, il m'avait donné toute sa vie. Il était mort pour moi. Il avait été plus loin que moi. Moi, je lui aurais donné ma vie pour mes filles, mais je l'ai pas fait. Mais lui, il l'a fait. Il s'est fait massacrer pour moi. Puis il me disait qu'il m'aimait à ce point-là, au point de me pardonner. Puis ça faisait pas 4 ans. Comme les filles, que je l'ai partie. Depuis que j'étais née d'une mère qui était pécheresse. J'étais dans le péché, puis je n'étais jamais revenue à lui. De toute ma vie, je l'avais ignoré. J'avais été sarcastique. J'avais ri de ceux qui s'accrochaient à Jésus. J'avais ri. J'avais juste ri. Je m'étais juste moquée de lui toute ma vie. Mais là, je lui ai dit que plus jamais j'allais l'abandonner. Plus jamais j'allais marcher sans lui. Puis j'allais donner ma vie pour lui. Puis j'ai eu la bénédiction d'avoir un lien très fort avec le Seigneur dès le départ. Parce que là où plusieurs chrétiens ont une marche à faire pour comprendre l'amour du Père, moi j'ai été bénie, puis je vous le dis, ça je dis merci à Dieu à tous les jours. Parce qu'en un instant, avec la phrase qu'il m'a dit, j'ai compris tout de suite l'amour du Père parce que c'était ça que j'avais dans le cœur, l'amour pour mes filles. La détresse du Seigneur, c'était la mienne à petite échelle. Tout ça, cette portion du cœur du Père-là, l'amour, puis la détresse du Père qui a perdu ses enfants, je l'ai saisi tout de suite à cause de l'état de mon cœur quand je suis venue au Seigneur. Puis ça, ça a été une grande bénédiction qui m'a propulsée vraiment... vraiment à vitesse rapide dans ma marche avec le Seigneur. Puis, je lui ai dit que j'allais donner ma vie pour lui. Puis j'ai fait un deal avec lui. J'ai toujours parlé au Seigneur comme un ami, comme je vous parle là maintenant. Puis je lui ai dit, carrément, je fais un deal avec toi, Seigneur, parce qu'il m'a promis de ramener les filles. Aujourd'hui, ça fait plus que 10 ans. J'aime pas compter les années après 10 ans, je dis plus que 10 ans. Mais ça fait 12, on va dire, que j'ai pas vu mes filles, que j'ai respecté la promesse. Avec la plus jeune, avec la plus vieille, j'ai essayé de tendre la perche. Mais il y a encore trop d'amertume. Ça n'a donné absolument rien. J'ai tendu la perche par Messenger, je ne l'ai pas vue, je n'y ai pas parlé en personne. Je n'ai pas entendu sa voix, mais ça ne sert à rien. Le cœur n'est pas prêt. Et puis, la plus jeune, ben, j'ai eu aucun contact, aucun. J'ai respecté ma promesse jusqu'au bout. Puis aussi, j'ai respecté surtout ce que Dieu m'a demandé, c'est-à-dire d'attendre que ça soit son temps à lui. Parce que Dieu m'a promis de ramener mes filles quand ça allait être son temps, puis quand il allait faire vivre des choses à mes filles, les choses nécessaires pour que leur cœur soit transformé, puis que, comme moi, ils puissent avoir Jésus-Christ qui rentre dans leur cœur. Puis après, Dieu m'a promis qu'il allait venir cogner à ma porte. J'ai aucune idée si ça va être ici-bas ou si ça va être en haut, que je vais voir arriver mes filles à la course, mais ça va arriver. Puis ça, j'ai complètement foi qu'un jour, je vais les serrer dans mes bras, que je vais pouvoir prendre mes trois enfants dans mes bras. Puis je vous invite aussi à croire à toutes les promesses que Dieu vous fait. Parfois, on ne le voit pas. Parfois, le temps ici sur terre, c'est long. Un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. C'est long. On ne le voit pas. Mais moi, je vous dis, prenez courage. Prenez courage et accrochez-vous à lui. Quand vous ne le voyez pas, fixez vos yeux sur Jésus-Christ. Fixez vos yeux sur Jésus-Christ. Alors, regardez pas ailleurs. Fixez vos yeux sur ses promesses, sur la parole, sur ce qu'il vous dit. Fixez-vous sur ce qu'il vous dit de faire. Puis marchez. Marchez. Marchez avec lui. Tenez le bord de son vêtement. Vous avez besoin de guérison. J'ai eu besoin de guérison. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai été restaurée point de vue santé. J'ai plus d'antidépresseurs. Plus du tout d'antidépresseurs. Je suis restaurée. J'ai une santé restaurée. J'ai un cœur restauré. Parce que oui, je pleure quand je témoigne parce que ça me ramène dans le passé. Puis je le revis. Mais je pleure pas. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie du Seigneur. Puis je vais évangéliser. Puis je suis dans la joie du Seigneur. Parce que oui, j'ai la vie éternelle. Parce que oui, les promesses du Seigneur sont vraies. Puis sont toujours là. Puis lui, il est fidèle. Il m'abandonnera jamais. Là où tous les hommes peuvent vous abandonner, mettez votre confiance dans le Seigneur. Lui, il ne vous abandonnera jamais. Jamais. Vous pouvez mettre tout votre cœur tantôt. Il y avait un chant qui disait, « Entends mon cœur, que Jésus-Christ entende votre cœur. » Pasteur Mathieu disait tantôt que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Alors que votre cœur soit entièrement à Jésus-Christ. Qu'il vous a donné sa vie, il vous a aimé le premier. Que vous lui donnez tout l'amour que vous pouvez humainement de votre cœur. OK? Puis tout le reste, ça va se tasser. Les guérisons, tout, toutes les épreuves, les difficultés. Puis quand vous criez à Dieu, osez crier à Dieu, comme moi j'ai crié dans mon auto, criez à Dieu, criez à voix haute, enfermez-vous dans vos chambres, priez, puis criez. Dites, Seigneur, je crie à toi. Puis Dieu n'est jamais sourd aux cris de ses enfants. Dieu n'est jamais sourd aux prières de ses enfants. Peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite. Mais quelques années après, vous allez voir, ça va revenir. Il va revenir avec ça. Il avait entendu le cri de ma détresse 4 ans avant. Il l'avait entendu, puis il est venu me sauver. Il est venu me sauver 4 ans plus tard. Alors, minimisez pas les cris que vous faites à Dieu. Puis minimisez pas l'amour qu'il y a pour vous. Il entend vos cris. Puis il va répondre à vos cris. Alors, c'est un peu ça que j'avais à vous amener ce matin. Maintenant, j'ai un ministère de louange. Alors, pour vous dire aussi qu'il a ramené le violon dans ma vie, parce que c'était de lui, alors tout ce qui est de lui, les œuvres qui sont prévues de lui, ce que le monde vous a enlevé, ce que l'ennemi vous a arraché, il va vous le rendre. Il va vous le rendre au centuple, puis il va vous le rendre doublement. Il va vous le rendre. que ça soit la santé que l'ennemi vous aille arracher, que ça soit la musique, comme moi, puis que ça soit quelque chose qu'il a mis en vous, le don des arts, des dons, des ministères, que ça, l'ennemi vous aille conduit à mille lieues de ça, il va vous le rendre. Il va vous le rendre, puis il va encore mettre plus, parce qu'il va se glorifier à travers ça, puis vous allez être bénis au centuple. OK? Fait que c'est vraiment ça que je veux vous témoigner ce matin. Je veux vous dire que Dieu nous abandonne pas, puis que c'est ça. Puis on a marché avec lui dans notre maison, aller jusqu'au mois d'octobre, puis on a vraiment eu le royaume qui est descendu dans notre maison, parce que on lisait pas la Bible. À ce moment-là, on lisait pas notre parole. Puis on a été enseigné en ligne directe. J'entendais le Seigneur carrément me donner des textes, me donner des... Plus tard, j'ai su que c'était carrément des versets de la parole que j'écrivais. On se nourrissait, mais en ligne directe. On allait à l'école au royaume. Un peu comme quand Jacob a vu l'échelle, les anges montaient et descendent. Maintenant, on peut, par Jésus-Christ, monter et descendre au ciel. Et nous, on a fait ça dans notre maison. On a monté à l'école, on descendait la nuit pour dormir, on montait à l'école du ciel et Jésus nous a enseigné la parole. Et puis, au mois d'octobre, on a fait appel au Centre chrétien d'Alma, à Denis Thibault, pour dire, écoute, Seigneur nous dit qu'il faut être baptisé d'eau. Il est venu chez nous et puis, il ne comprenait pas d'où on tombait, parce que personne nous avait évangélisé, on ne connaissait pas aucun chrétien. Notre témoignage, c'était vraiment, regarde, Jésus est venu chez nous, puis nous, on va à l'école, là, en haut, et puis et Jésus est dans notre cœur, et puis on lui a déballé en 40 minutes, alors Denis, il a tombé le menton à terre, parce qu'on s'entend que c'est un ami personnel maintenant, un très grand ami, et puis il savait pas d'où on sortait, parce qu'on s'entend que quand c'est en ligne directe avec le royaume, ça va plus vite. Puis c'est beaucoup plus puissant aussi. On a été bénis parce qu'on avait une marche de chrétiens qui était avancée dans le Seigneur. Peut-être qu'il y aurait eu 10 ou 15 ans dans le Seigneur de compréhension. Mais nous, on avait acquis ça en 6 mois. Mais on avait été collectés en ligne directe. On avait l'Esprit-Saint qui avait tombé dans notre maison vraiment pour ce temps-là. Donc, on bénit le Seigneur à tous les jours pour ça aussi parce qu'avec les temps qu'on vit présentement, on sait qu'il n'y a plus beaucoup de temps, puis on est venu au Seigneur quand même à 42 ans, et puis on n'avait pas toute une vie pour comprendre ça. Et puis je bénis le Seigneur de m'avoir donné à vitesse rapide les enseignements de sa parole, parce qu'il y avait des plans pour nous, des plans de ministère, et puis c'est grâce à ça que maintenant on peut avancer, et puis on peut espérer au ministère avec lui. Alors ici, je vais vous distribuer aussi tantôt, à la fin. Je vais en mettre à l'entrée. J'ai écrit mon témoignage avec l'aide du Saint-Esprit. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit d'écrire mon témoignage. Donc, je vous invite à faire ça aussi. Si vous avez des cahiers, écrivez. Écrivez toutes les bénédictions que vous recevez. Écrivez, si vous ne savez pas écrire, pas de problème, aucun problème, dessinez. Dessinez, faites des dessins. Découper des phrases, coller-les, mais marquer à chaque jour tout ce que le Seigneur vous donne, toutes les bénédictions que vous avez. Parce que parfois dans la vie, on les oublie. Parfois dans la vie, on oublie qu'est-ce qu'on a reçu de prophétie, de bénédiction, ou de message, ou d'encouragement. On les oublie. Mais quand on les écrit, puis que ça va mal, bien, on peut les feuilleter. Mon fils fait des dessins, feuillette ses dessins. Il se comprend avec ses dessins, puis Dieu, puis garde. Faites ça. Puis ce témoignage-là, ben c'est ça. Il est écrit, puis je vais vous le partager tantôt. Je vous invite à le photocopier si vous voulez. Je le placarde dans les entrées de restaurants et tout ça. J'en donne à ceux que je rencontre aussi. Ici, il y a mon courriel, mon adresse courriel, et je marque que s'il y a des gens qui ont besoin de raconter qu'est-ce qu'ils vivent, qui ont des problèmes, qui peuvent adresser ça à mon courriel. Puis, si c'est des besoins de prière, si c'est de vous confier, alors je suis 100% à l'écoute de tout ça. Fait que c'est ça.
Amen. Gloire à Dieu. Oui, Suzanne, tu voulais dire quelque chose?
Hein?
Dites-moi une chose, que moi j'ai
été 17 ans. C'est touchant, hein? Ça vient nous chercher. Marcel voulait que je dise que c'était avec lui que j'étais lundi passé pour la rencontre. Oups, on a perdu le... Oui, c'était Martial qui était avec moi. Des fois, je n'identifie pas les gens pour ne pas les mettre mal à l'aise, là. Mais c'était mon frère bien-aimé. Prions. Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, que tu es grand, que tu es puissant, que tu es bienveillant. Oui, tu es saint. Trois fois saint. Mais tu as pourvu un moyen qu'on puisse être réconcilié avec toi et devenir saint par le sacrifice de Jésus. Merci, Père, pour ce témoignage de ta puissance, de ton amour, de ta grâce, Seigneur. Que ce témoignage puisse porter fruit dans chaque cœur ce matin et au-delà, Seigneur. Seigneur, Dieu de lumière, on vient devant toi parce que tu es la source de toute bonne chose, la source de tout don. Dieu de lumière, on veut se positionner dans ta lumière ce matin. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos vies de ta lumière. Jésus, lumière du monde, viens à notre rencontre, Seigneur, ce matin. Père, par ton esprit, éclaire notre intelligence, illumine les yeux de notre cœur qu'on puisse saisir ce que tu veux nous dire, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, révèle-nous la pensée intime du Père pour chacun de nous ce matin. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. Alors, je vais simplement faire un petit résumé de ce qu'on est rendu dans la vie de David et peut-être vous apporter un point avant la fin, OK? Ce qu'on a vu dans les deux dernières semaines, c'est d'abord que Dieu a expérimenté la grâce de Dieu. David a expérimenté la grâce de Dieu. David avait fait des erreurs dans sa vie. Il y avait eu des lourdes conséquences à ces erreurs-là. L'ennemi avait capturé sa femme, ses enfants et toutes les familles de tous ces hommes, 600 hommes, avaient été capturés parce que David et ses hommes avaient fait un compromis puis avaient été avec l'ennemi en voulant se protéger de Saül. Quand on prend les choses en main, les amis, là, ça je disais tantôt, est-ce que Jésus est ton protecteur? Sinon, tu vas avoir envie de prendre les choses en main. Et quand tu prends les choses en main, tu deviens insensé. La Bible dit que tu deviens insensé. Un insensé, c'est qu'il réfléchit sans tenir compte de Dieu. David s'était dit, un jour, je vais périr par la main de Saül. C'est insensé. Parce que Dieu avait dit, tu vas t'asseoir sur le trône. Donc, Il ne tenait plus compte de ce que Dieu avait dit. Et à cause de ça, il a fait un compromis. Et à cause du compromis, l'ennemi était venu, il avait volé. Il avait volé, comme on a entendu ce matin, l'ennemi avait volé les enfants, les épouses. Il avait rasé la ville, incendié la ville. Et David, ses hommes voulaient le tuer. Il était tellement fâché, on les comprend. C'est lui le responsable. Hein? C'est toi qui nous as amenés là, là. Si on n'avait pas été là, on aurait encore nos enfants, là. Ça rejoint ce que tu as dit, et c'est fou, hein? C'est fou, je ne pensais pas à ça. Mais là, David, il se tourne vers Dieu. Parce que là, il est en détresse. Puis il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Et Dieu lui fait grâce. Il fait grâce à David. Il fait grâce. Il réussit à aller pourchasser l'ennemi. Il demande à Dieu, est-ce que tu veux que je... Il ne part pas, là. Il a appris une leçon, là. Il ne part pas sans consulter Dieu. Il s'en va avec ses hommes, ramène les captifs, détruit l'ennemi complètement. Et il revient et il y a 200 hommes qui n'ont pas été capables de le suivre jusqu'au bout. Et il y en a dans son armée qui disent, eux autres, là, ils ont juste à prendre leurs affaires puis qu'ils s'en aillent. David dit, non, non, non. David fait grâce. C'est une petite portion de la Bible, là, mais ça en dit long. Des fois, là, les amis, là, les petites choses dans la Bible, là, ça en dit long. Et des fois, on passe vite par-dessus ça. Mais quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit, ça m'a sauté aux yeux. David fait, non, les gars, non. La même portion pour ceux qui sont restés avec les bagages que ceux qui sont allés à guerre. Pourquoi? Pourquoi? C'est de la grâce. Voyez-vous, la grâce, là, c'est une attitude. C'est quoi la grâce? De faveur non méritée. C'est pas juste un acte. Oui, c'est un acte de grâce qu'il a fait. Des fois, on pense à la grâce, c'est quelque chose que un cadeau. Ouais. Oui, ça peut être ça, mais c'est pas juste ça. C'est une attitude. Puis on a vu que David fait grâce. Il a une attitude favorable. Et plus tard dans sa vie, plusieurs reprises, on voit David qui a une attitude bienveillante, une attitude favorable. Puis on s'est posé la question, nous, là, toi et moi, là, comment est-ce qu'on interagit avec les gens? Hein? Je vous avais conté une histoire où j'ai manqué de grâce, moi, là. Puis je n'avais pas vu. Puis après, quand le Saint-Esprit me l'a dit, j'ai dit, oh, j'ai rien fait de mal, mais j'ai rien fait de bien. Et j'ai dit, c'est grave manquer de grâce. Pourquoi? Parce que j'ai été tellement gracié. Je suis encore au bénéfice de cette attitude favorable de Dieu, là, la grâce qui descend par Jésus-Christ envers moi. C'est grave manquer de grâce, les amis. C'est grave que le Saint-Esprit nous le montre. Tu peux pas répondre comme ça n'importe comment là, aux gens, là, si tu veux être comme Jésus-Christ. OK, on a vu ça. On a vu la grâce. Après ça, la semaine d'après, contraste. On voit la sainteté et la sévérité de Dieu. Ouh, qu'est-ce qui se passe? David, tout joyeux, il veut ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et il veut honorer Dieu. Il veut que Dieu soit au centre de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Ils mettent l'Arche sur un chariot, puis Uzza, un des prêtres lévites, il étend la main, il touche l'Arche parce qu'elle penche, puis il pense que ça va tomber. Qu'est-ce qui se passe? Bang! La journée de fête tourne en jour de cauchemar, de drame. Wow! Et où la grâce de Dieu? Et où la bienveillance de Dieu? La sainteté de Dieu, les amis. Puis on a parlé, on a vu, c'était quoi la sainteté de Dieu? C'est quoi la portée de la sainteté de Dieu? On a fait la comparaison avec monter le mont Everest. Va demain matin, là, essaie d'y aller comme tu veux, là, comme bon te semble. Là. Puis on va voir ce qui arrive. Pourquoi? Parce que la montagne, là, elle est faite de même. C'est elle qui impose les conditions, c'est pas toi. Il faut que tu te plies à la montagne. Et chaque année, il y a des dizaines de personnes qui meurent sur cette montagne-là. Parce qu'il y a de plus en plus de gens dans le monde qui veulent escalader le mont Everest. Puis les guides, là, les compagnies de guides, là, ils ont une pression énorme parce que les gens payent des fortunes, 50 000, 60 000, 70 000 pour aller escalader cette montagne-là. Vous saviez-vous ça? Donc les guides là, sont pressés, puis il y en a de plus en plus. Puis ça fait la queue leu-leu. puis ils prennent des risques. Ils prennent des risques qu'ils ne devraient pas prendre. Et la montagne, elle ne changera pas pour toi, là. Puis c'est la même chose avec la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose dont il ne fera aucun compromis. Comme des lignes de haute tension, là. Va à côté ton échelle là-dedans, on va voir ce qui se passe. On a vu la méduse, si tu veux prendre une belle méduse avec tes mains, c'est vénéneux, tu peux mourir. Et où la grâce? Bien, la grâce, c'est que Dieu avait prévenu avant. Touchez pas à l'arche. Il a dit, j'ai instruit Moïse, fais des anneaux, et dans les anneaux, on va faire quoi? On va mettre des barres, et qui devrait pas transporter l'arche? Bien, c'est les prêtres, les lévites. Ils ne toucheront pas à l'arche. Elle est là, la grâce. La grâce était là, au départ. C'est une grâce de Dieu de dire, attention, je vous préviens, je vous mets je vous avertis, touchez pas à mon arche parce que ça représente ma sainteté, là. Elle est là, la grâce. C'est comme un biologiste qui dit, là, la méduse que tu veux prendre avec tes mains, touche-la pas. Ben merci, c'est une grâce qu'il vient de me faire, là. Mets-toi des gants. Et là, tu pourras prendre la méduse. Ah, OK. Donc, on a vu que, finalement, le prêtre qui allait dans la présence de Dieu, il fallait qu'il aille juste une fois par année, une personne, et de quelle façon? Avec le sang d'un sacrifice. Et c'était là l'accès qu'on pouvait avoir à Dieu, là. L'arche était derrière ce rideau-là. Et quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui est arrivé? L'arche est déchirée du haut en bas. Le rideau. Un rideau de 4 pouces d'épais, 10 cm, 60 pieds de haut, au-dessus de 20 mètres de haut, déchiré de haut en bas, signifiant que maintenant, l'accès est illimité. L'accueil de Dieu est infini. Pourquoi? Parce qu'il a frappé Jésus à ta place. Comme Uzza, là. Uzza était pécheur. En touchant à l'arche, le jugement de Dieu est tombé sur lui. Et la même chose avec Jésus. Jésus est entré dans la présence de Dieu. Dieu l'a frappé. Pourquoi? Parce qu'il portait tes péchés et les miens. Jésus a pris la place d'Uzza, finalement. Et c'est ça qui fait qu'on a un accès illimité à Dieu par Jésus-Christ. Et Jésus peut nous accueillir, Dieu peut nous accueillir. Fait que rapidement, 3 mois plus tard, dans la vie de David, 3 mois plus tard, là, David, c'était marqué, David prit peur de Dieu, là. La sorte de peur qui arrive lorsque on ignorait les risques de faire quelque chose, là. Comme moi, si je descends trop vite en vélo, là, puis j'ignore que l'asphalte est glissante, là, puis que je me ramasse avec des fractures, je vais avoir peur la prochaine fois. Parce que j'ignorais les risques. Okay? C'est ce genre-là de peur qui saisit David, un genre de traumatisme. Okay? Il prend peur. Comment je vais faire? Et c'est impossible. Comment on va faire? Puis finalement, au bout de 3 mois, on lit dans 2 Samuel 6, que David appelle les Lévites, les prêtres. Il dit, les gars, écoutez, on n'a pas bien travaillé la dernière fois. On n'a pas respecté qui était Dieu. C'est à cause que vous n'étiez pas là que cette tragédie-là est arrivée. Maintenant, on va faire les choses de la bonne façon. Vous allez transporter l'arche comme il se doit avec les barreaux. Et on va faire des sacrifices, et c'est marqué que David a fait des sacrifices, je me rappelle plus à combien de pas, là. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails ce matin. Mais David se révise. David réalise que Dieu était gracieux. Il avait pourvu un moyen de l'approcher sans danger. Donc, chers amis, on s'approche de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu en respectant qui il est. Le Dieu trois fois saint. le Dieu qui est saint d'une manière infiniment au-delà de toute expérience humaine. Et le cœur d'un vrai adorateur, là, c'est là que ça commence. Ça commence avec un respect, une révérence d'être saisi par qui est Dieu et dire « Oh, OK, moi, je vais m'adapter à ça, à cette réalité-là, à qui est Dieu. » C'est pas à lui de s'adapter, malgré qu'il l'a fait. Il le fait encore. Mais le vrai cœur d'adorateur, c'est que tu ne peux pas venir à Dieu à tes termes à toi. Il faut que tu viennes selon ses termes. Tu plies à ses termes à lui. Et qu'est-ce qu'il est dans sa nature? Il ne fera aucun compromis. Donc, David s'humilie devant Dieu. C'est marqué que David dansait et il dansait dans ses sous-vêtements en public devant l'arche. Il faisait quelques pas, les Lévites faisaient un sacrifice, il avançait quelques pas et ça a dû prendre toute la journée. Imaginez du matin au soir qu'il fait ça. Et David s'humilie publiquement. Imaginez-vous la scène. Le roi, il danse dans ses sous-vêtements comme un fou toute la journée. Et à tel point que sa femme Michal, hein, qui était la fille de Saül, quand il arrive à la maison le soir, elle dit « Ouais, c'était beau hein, de voir le roi comme ça. » Elle est embarrassée par ça, là, elle est gênée par ça. Mais qu'est-ce que David répond? Il répond « Je m'humilierai encore bien plus devant l'Éternel. » Je m'humilierai encore bien plus devant l'Éternel, mais je serai néanmoins honoré par les personnes dont tu crains l'opinion. Et c'est ça, je vais terminer avec ça. C'est ça le point que je voulais vous faire de plus ce matin. Tout le reste est une révision. Le point que je veux faire, que le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire ce matin, c'est que un cœur qui bat selon le cœur de Dieu, OK? Un cœur qui est adorateur pour Dieu, là, est tellement centré sur Dieu, là. Tellement centré sur Dieu. Je vous casse les oreilles avec ça, hein. Souvent, là, c'est la vie égocentrique et vie christocentrique. Bon. Un cœur, selon le cœur de Dieu, c'est un cœur christocentrique. Un cœur qui est centré sur Dieu. Puis il est tellement centré sur Dieu, David, là, qu'il oublie qu'est-ce qu'il y a alentour. Il, c'est comme si ça n'existait pas. Tout ce qu'il voit, là, tout ce qui est important pour lui, là, c'est Dieu. Puis la question que je me pose, la question que je te pose ce matin, est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que Jésus-Christ est tellement important pour moi que je suis prêt à m'humilier, à dire des choses, à faire des choses que aux yeux du monde sont là, voyons, mais que ça m'importe peu, ça m'importe même pas, parce que j'ai un cœur tout entier à Dieu. Un cœur tout entier à Dieu. Puis vous savez que si vous continuez à lire dans les Samuel, puis Chroniques, puis Rois, là, tous les autres rois qui suivent là, sont comparés à David. Ils disent, tel roi, ben il a servi Dieu, mais son cœur n'était pas quoi? Tout entier à Dieu comme son ancêtre David. Et cette phrase-là, là, ça revient et ça revient et ça revient. Ils ont beau faire du bien, c'est correct, Dieu le reconnaît, mais qu'est-ce qu'il voit, Dieu? Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde au cœur. Est-ce que ton cœur est tout entier à moi? Est-ce que ton cœur vibre pour moi comme David? Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas des erreurs. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas de péché. On va le voir plus tard. Mais c'est ça l'essence. C'est ça l'essentiel d'un cœur qui bat pour Dieu. C'est un cœur qui est attaché à Dieu, qui est tout entier à Dieu, au point de s'oublier et de se ficher de ce que les gens pensent autour. Mais attention, là. Cela ne veut pas dire qu'on se fiche du monde ou qu'on peut être impoli ou manquer de respect envers les gens, là, parce que Ben, tu sais, il n'y a pas d'importance. Je porte pas d'importance à ce qu'ils pensent. Non, non, non. Non, non, non. La parole nous dit d'agir avec douceur et respect envers tous, d'user de prévenance, d'avoir de l'estime, du respect pour les autres, de les honorer. Ça, c'est vrai. Mais à comparer, là, à comparer, c'est que tu te concernes pas de ce que les gens vont penser. Tu suis Jésus. Tu suis Jésus. Tu suis Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, on te bénit pour ce temps merveilleux en ta présence. Merci Seigneur pour ta lumière, la lumière de tes Écritures et pour ton Esprit Saint qui nous enseigne. Merci Père de nous avoir enseigné encore ce matin. Seigneur, je reconnais que souvent mon cœur est infidèle, souvent mon cœur est partagé, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande un cœur tout entier à toi, Seigneur. Un cœur tout entier. Merci, Père, pour ce temps merveilleux en ta présence. Bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse porter fruit et revenir à toi, au centuple, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, William, t'avais-tu un chant pour nous pour terminer? OK.